Le don des larmes. Conte extrait de Légendes et souvenirs des Hautes-Vosges par l'abbé Georges Fléieux. Cette légende est inédite, elle appartient à la fois aux Vosges-Lorraine et à l'Alsace, car elle met en scène les fées qui habitaient les pentes du Honeck et place l'action dans un des châteaux de la vallée de Münster.
Les fermiers de l'antique ferme de la Chaume de Montimbet en sont les acteurs.
Je l'ai cueilli près des pâtres des environs de Metzeral et de Münster.
Après l'avoir déjà entendu dans les fermes de nos montagnes, avec quelques variantes peut-être, mais le fond est le même.
J'ai unifié ces différentes versions en un seul récit que nous appellerons
la légende du don des larmes,
dont la portée morale n'échappera à personne. Est-ce une simple allégorie ou la légende a-t-elle poussé sur un fait historique ?
Nous l'ignorons, mais si ce n'est pas l'histoire d'une femme en particulier, c'est bien l'histoire de la vie humaine qui peut être tissée de soie, mais dont la trame est trop souvent de vil coton. Cette pauvre vie où l'homme est condamné à ne goûter que la joie, trempée dans les larmes.
C'est un article de foi pour nos montagnards, qu'un enfant né un dimanche a le bonheur de voir les esprits.
À qui sourirait l'enfant dans son sommeil s'il ne voyait des esprits ?
Mais pour les enfants nés le dimanche, les fées n'attendent pas qu'ils sourient. Elles viennent assister à leur baptême.
Or, un certain dimanche d'une année perdue dans les siècles passés, le fermier de Montimbet se vit le père d'une petite fille. Cet enfant naissant un dimanche apportait à ses parents non seulement la joie de sa naissance, mais encore la perspective du bonheur.
Que Dieu en soit loué, se dit l'heureux couple, notre fille verra les fées, elles viendront à son baptême. Quelques jours après, dans la chapelle du Valtin, l'heureux enfant fut régénéré dans les eaux baptismales et le prêtre lui donna le gentil prénom de Odette.
À cette fête, en effet, apparurent les fées.
Elles étaient trois au retour de la cérémonie, le cortège du baptême, composé du parrain, de la marraine qui portait l'enfant. Des invités au banquet les aperçurent au-dessus du sentier de la ferme sous la forme de trois dames qui firent sensation.
Il n'y avait pas encore de touristes alors, et les belles dames ne fréquentaient pas les Hautes-Vosges. Celles-ci venaient du Honeck. On sait que cette montagne était le séjour favori des fées aujourd'hui disparues.
La solitude de ce massif sauvage, encore inaccessible aux vulgaires mortels, en faisant un lieu sacré, cher à ces êtres mystérieux. Les escarpements abrupts de la montagne, festonnés des gorges de promontoires, recelaient leurs cellules enchantées. Et les sommets gazonnés de bruyères, où sans cesse gémit le vent, étaient le théâtre de leurs jeux et leur danse nocturne.
Ces fées du Honeck étaient presque toutes de bonnes fées. Suivant l'étymologie de leur nom, Fatum, destinée, elles n'usaient guère de leur magique pouvoir que pour souhaiter une heureuse destinée, que pour faire le bien aux montagnards avec lesquels elles entretenaient des rapports de voisinage.
Il faut dire aussi qu'ils étaient, de leur côté, de braves gens, bons, simples, religieux, hospitaliers. Leurs mœurs se reflétaient dans les croyances, et à part l'époque tragique des sorciers, nos pères ne voyaient que du bienfaisant dans le préternaturel merveilleux.
Rien ne rassure contre les terreurs vagues comme une conscience tranquille.
Ce souvenir des fées du Honeck est encore si vivace que la montagne voisine appelée par les Allemands Kastelberg domine les chaumes de Schmargut et de Bretschusen, a conservé chez nous le nom de haute fée.
Elles étaient nombreuses ces fées du Honeck, chacune d'elles répondait à un sentiment populaire, ou plutôt était l'expression animée d'une pensée dominant la vie humaine.
Il y avait la fée de la richesse, la fée de la beauté, la fée de la joie, de la peine, la fée des larmes, etc.
Ajoutons qu'elles avaient une reine, ou mieux, une suzeraine, qui possédait sur toutes les autres une primauté sur l'étendue de laquelle nous sommes mal fixés.
Si elles ne se trouvaient que trois au baptême de Odette de Montabeille, l'heureuse prédestinée, née un dimanche, c'est que les fées ne vont que trois par trois. Et quand on les invitait à une fête, elles y rappelaient toujours une trinité.
Les trois grâces, évidemment.
Mais il est temps de vous présenter les trois fées qui venaient à la fête du baptême chez le fermier de Montabeille.
Voici d'abord la fée de la beauté. Et pour parler comme un vieux manuscrit des Vosges, elle était...
Si moult gracieuse, avec un visage si plaisant, qu'aucun pensait qu'elle fût un porte-assise du paradis de Dieu.
Bref, elles étaient ce que l'on dit communément, belles comme un ange, gracieuses comme un oiseau. C'est pour cela, sans doute, qu'on l'appelait la fée Aligère.
La seconde était la fée de la richesse, nommée Origère. Ses vêtements tissés d'or et d'argent, sa tête couronnée de perles diamantines qui faisaient ressortir l'éclat et la majesté de sa figure, le disait assez haut.
La troisième était la fée des larmes. Ses yeux étaient vert azuré, touchants, profonds, et continuellement une larme y brillait qui semblait une perle sortie dans un écrin de velours bleu. Ses vêtements étaient austères, dignes et sévères. Et bien qu'elle n'eût ni la grâce de la première ni la splendeur de la seconde, elle n'avait pas un attrait moins puissant. Et même à elle seule, elle paraissait plus belle, plus sympathique que les deux autres ensemble.
On l'appelait la fée turquoise.
Suivons-les maintenant dans la maison du fermier où elles prennent part au joyeux banquet du baptême.
Avant de quitter la fête, s'approchant successivement du berceau où sommeillait la gente Odette, les trois fées lui font chacune un don. De sa baguette magique, la fée Aligère touche le front de l'enfant et lui dit
« Je suis la fée de la beauté. Je t'octroie le don d'être belle comme moi et de charmer tous ceux qui t'approcheront. »
La fée Aligère promet à son tour richesse et grandeur.
Le père et la mère et toute l'assistance sont en liesse.
On dirait qu'à la voix des fées, le voile de l'avenir vient de s'entr'ouvrir et laisse voir aux yeux émerveillés une chantelaine ravissante tenant sa cour au milieu des pages et des nobles demoiselles.
Le charme fut rompu à la troisième fée, la fée turquoise, la mère des larmes. Chacun pâlit et trembla en l'entendant s'exprimer ainsi.
« Et moi, qui suis la fée triste, je te fais le don des larmes. »«
À quoi bon, en effet ?»«
Être riche. »«
Être belle. »«
Si l'on doit pleurer. »
Le premier moment de stupeur passé, les parents ne purent retenir leurs reproches contre cette trouble fête, cette fée de malheur.
Est-ce que son bonheur vous portait ombrage? Pourquoi mettre votre fille au fond de la coupe qu'elle doit vider un jour? Si vous ne voulez rien lui donner, au moins, ne volez pas les présents des autres. Qu'elle jouisse en paix des dons qu'on vient de lui prodiguer si gracieusement.
Le père s'était tu. La mère continua d'un ton suppliant.
Ah, si Odette doit connaître la pauvreté, après l'opulence et l'obscurité, après la grandeur, non, pitié, pour elle et pour moi, qu'elle reste pauvre comme nous, c'est moins cruel.
Retirez plutôt vos présents que de leur donner un lendemain. Mieux vaut ne pas connaître le bonheur que d'emporter un jour le deuil.
Le cri de la pauvre mère est si poignant que la fée reprit avec compassion.
Vous pouvez refuser le don que j'ai fait à votre fille. Quant à moi, je ne puis lui en octroyer d'autres.
Cependant, réfléchissez avant de m'opposer un refus. Le don des larmes est plus précieux que vous ne le croyez.
La larme soulage, elle féconde. Malheur au sol où ne jaillit pas de source et au cœur fermé comme le roc.
Je laisse votre fille avec son avenir de richesse et de beauté. Puisse-t-il suffire à son bonheur?
Sur ce, les trois fées prennent congé. Les deux premières, après avoir encore de leur baguette enchantée, touchaient le front de leur pupille, lui laissant comme gage de leur protection un long et gracieux sourire. Tandis que la fée turquoise, dont on avait méprisé les faveurs, saluait tristement et se retirait sans tourner la tête.
Les parents demeurèrent sous cette impression.
Leur joie était empoisonnée par un vague pressentiment. L'avenir de leur Odette leur apparaissait radieux à travers le sourire des deux premières fées, mais le visage glacé de la troisième avait suffi à jeter un nuage dans leur ciel.
Ce n'est pas impunément que l'on offense une fée. Une déesse est toujours femme et ne pardonne guère le dédain. Pourquoi avoir refusé ses faveurs? Le mal était fait, était-il sans remède?
On se promit de le réparer à la première rencontre, mais la fée turquoise ne revint plus.
Le temps efface tout, il emporta bientôt ce souci sur ses ailes. Quelques années plus tard, on n'y pensait plus. Odette, en grandissant, réalisait les belles et brillantes qualités dont l'avaient dotée ses mystérieuses marraines.
Elle semblait s'isoler de lumière et d'or. C'était bien la fleur de la montagne, nourrie de soleil et de grand air, épanouissant les roses de sa corolle sur une tige souple et gracieuse.
Mais le souffle des fées avait jeté là-dessus je ne sais quel reflet mystérieux, subtil comme le parfum d'Ulysse, capiteux comme l'arôme de la bruyère sauvage.
Elle avait le délicat profil des vierges antiques, la riche chevelure de sa marraine, l'œil profond de ceux qui ont contemplé l'infini et en ont gardé le rêve. Aussi avait-elle un port de reine qui trahissait la femme supérieure, même sous sa mise de montagnarde.
Bref. Elle attirait tous les yeux, mais pas les cœurs. Que lui manquait-il donc? Ce qui manque à la fleur quand le ciel est d'airain et refuse la goutte de rosée.
Il lui manquait la divine beauté des larmes, l'œil a beau être profond, le regard magnétique, s'il reste toujours sec, il devient dur. Il est puissant, il peut subjuguer comme celui du serpent, il ne charme point.
Il ne fait pas à l'homme l'une de ces blessures éternelles qui soumettent un cœur pour toujours. Il inspira un caprice par un amour véritable. Odette en fera bientôt l'épreuve.
On l'admirait comme on admire le modelé d'une statue de maître. On la convoitait comme l'on convoite une plante rare. Elle plaisait uniquement comme plaît la beauté plastique. La sensibilité lui semblait absente et son sourire même était froid.
Jamais on ne la voyait émue, jamais on ne la voyait pleurer, et même pas les innocentes larmes que versent les enfants, les larmes des premiers et éphémères chagrins. Jamais on ne les avait vues perler dans ses beaux yeux toujours brillants, mais toujours secs comme un cristal au soleil.
Oh !
Ce don des larmes, pourquoi l'avoir repoussé si légèrement ? La mère d'Odette se l'était reprochée bien des fois. Elle lui donnait 10 de ses sourires pour une larme. Et pourtant, Dieu sait s'il était doux les sourires de cet adorable enfant.
Pour la mère, ce n'était qu'une privation. Pour la fille, ce devait être un martyr.
Mais n'anticipons point, nous avons vu le premier horoscope se réaliser. La fée Aligère avait promis la beauté. Elle avait tenu parole. L'évidence dépassait tous les rêves.
La fée Aligère ne sera pas moins royale pour doter sa pupille. Attendez qu'elle entre en scène et vous verrez si elle se laisse vaincre en générosité par sa compagne.
Pendant que ses parents arrosaient le sillon de leur sueur, Odette menait paître sur les chaumes les troupeaux de la ferme.
Volontiers, elle s'attardait dans ses solitudes où elle comptait autant d'amis qu'il y a d'oiseaux chanteurs et de fleurs alpestres.
Un jour, la gentille pastorelle avait conduit son troupeau sur le versant de la montagne qui domine Münster et s'était arrêtée longtemps à la lisière d'une immense forêt de sapins.
Tout à coup, elle entendit une sonnerie de cor et bientôt vit paraître dans la futaie une belle troupe de cavaliers. C'était le comte Guntram de Gisberg qui était en chasse à la tête de ses gens, véritable armée de piqueurs et de varlets.
Guntram était le fils du haut et rude sire de Gisberg, dont le château au pied de Stoffen dominait le val de Saint-Grégoire.
Longtemps, les Gisberg furent la terreur de toute la vallée sur laquelle ils s'abattaient en vrais vautours, faisant leur poids des fiefs de leurs voisins et des terres abbatiales et municipales. Aussi étaient-ils en guerre continuelle avec les seigneurs alsaciens qui finirent par les vaincre et les déconfier.
Leur manoir fut détruit et leur race transplantée dans l'un des 3 châteaux de Ribouville qui a pris et conservé leur nom.
Mais à l'époque de notre récit, la maison de Gisberg était vraiment prospère. Nombreux vassaux suivaient sa bannière, aussi Guntram et son père se voyaient-ils encore bien redoutés parmi les hauts barons de l'Alsace pour leur audace, leur intrépidité et aussi peut-être leur rapacité héréditaire. Chez eux, le luxe égalait l'orgueil et la puissance.
Depuis peu de temps, Guntram avait perdu son père. Il venait de recevoir l'investiture de sa haute baronnie. Fils unique, héritier du fier donjon de ses immenses dépendances, il s'annonçait comme le digne continuateur d'une longue lignée. Accompli en toutes choses à la hardiesse téméraire de ses ancêtres, ces hommes de fer qui ne prétendaient relever que de Dieu et de leur épée, Il joignait la noblesse des sentiments, la grâce des manières, ce tact, cette élévation qui formait le code de la chevalerie et qu'il avait puisé à bonne source, ayant été page à la cour du roi de France.
Au contact de cette chevalerie française, si noble, si fière, si enthousiaste, du beau et du grand, l'orgueil farouche des vieux burgaves, ses ancêtres, s'était transformé chez le jeune comte en fierté intransigeante et chatouilleuse.
Guntram était donc un gentil homme de renommée de race, d'esprit et de mine, et comme son cœur s'était affiné, il rêvait un idéal de grâce, de beauté, pour devenir sa compagne.
Quelle serait donc la future châtelaine de Gisberg ?
Ce devrait être Odette de Montadet.
Si le jeune comte Guntram se trouvait en chasse dans les forêts de la Schlurte, s'il s'était attardé avec ses gens sur les chaumes du Honeck,
ce n'était pas l'effet du hasard. D'abord, rien ne se fait par hasard en ce monde.
Et puis, nous savons que l'effet veillait sur les destinées d'Odette. Et c'était l'effet, en effet, qui, par une inspiration mystérieuse, avait amené là le jeune gentilhomme pour qu'il rencontrât la beauté de leur protégée. Le coup fut décisif. Le noble chasseur ne put cacher son trouble à la vue de cette jeune pastourelle entrevue dans ce cadre champêtre. Il déclara que
« Onque n'avait rencontré pareil visage, plus majestueux, plus joli et castel, et moustier, voisin, voire même à la cour du roi de France. »
Après cette enquête du nom de la si jeune personne, et comme s'il fût adressé à une fille de prince, il lui dit tout bonnement en français qu'il parlait ainsi que tout chevalier bien éduqué.
« Damoiselle Odette m'avait navré et féru d'une profonde blessure en mon âme. Vous serez madame, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de notre vie en ce siècle. »
Bossier reprit ingénument la jeune fille qui parlait elle-même comme une vraie damoiselle.
Je suis ébahie et reconnaissante. Et si mon père, le fermier de Montabeil, veut bien m'octroyer à votre seigneurie, je vous suivrai en votre sirolité pour être votre fidèle servante.
Le jeune seigneur se fit mener avec toute sa suite à la ferme de Montabeil et solennellement, il adressa à ses paysans requêtes et prières pour épouser en juste noce leur fille Odette, cet astre de jeunesse et de beauté, méritant pour sa distinction, noblesse et puissance.
Ainsi soit-il, répondirent les heureux parents, qui voyaient ainsi pour leur fille se réaliser le don de la deuxième fée, la richesse, la grandeur.
Et charmé et heureux, le sire Guntram de Gisberg mena en son manoir Odette de Montabeil, l'épousa et la fit reconnaître dame souveraine de toute sa châtelaine.
L'éclat de la beauté, la splendeur de la richesse, n'est-ce pas tout pour le monde extérieur et superficiel ?
Rien n'échappe à leur empire ici-bas.
Avec cette double auréole, instantanément, Odette fut reine à la cour seigneurale du château de Gisberg.
De prime abord, sa beauté magique saisissait et lui donnait l'air d'une déesse, laissant sur son passage un charme mystérieux et surhumain.
Cette beauté avait elle-même, comme la baguette féerique qui l'avait communiquée, le don de subjuguer.
Rien donc d'étonnant que, après le jeune et bouillant Guntram, chacun au château subit si promptement et si spontanément ce charme magnétique et transcendant.
Tout allait bien tant que dura le filtre, mais il devait s'évanouir.
Pourquoi au baptême de l'heureuse Odette, les fées étaient-elles venues au nombre de trois ?
Les fées, à elles trois, se complétaient comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Impossible de les isoler sans les neutraliser.
Le malheur d'Odette fut d'avoir refusé le troisième don, celui des larmes dont l'absence frappait d'impuissance les deux premiers. Elle allait même les perdre, ses deux premiers dons, de beauté et de richesse. Dans une lutte engagée avec ses ennemis, car elle en eut bientôt, les succès nous en suscitent toujours.
Elle allait apprendre à ses dépens la belle châtelaine, que le bonheur n'est pas dans ce monde, parce que ici-bas, il se heurte forcément à un triple écueil. La lassitude, la déception, la jalousie, lequel allait faire sombrer sa barque. Mais tous les trois devaient s'unir contre elle.
La lassitude d'abord. Elle vient vite la satiété de la beauté plastique, quand celle-ci n'est pas un reflet de la beauté morale ou quand elle n'est pas animée. Idéalisée par la sensibilité, on se lasse d'admirer même les plus belles choses. Et habituée cette beauté enchanteresse de son épouse, le sire Gontram finit par se blaser, nature ardente dont l'éducation avait affiné les aspirations, mais non domptée, la fougue. Il avait les passions trop vives et le cœur trop chaud pour faire un contemplatif.
Aussi, le premier enthousiasme passé, le charme fut rompu. Vint un jour où le jeune comte fut repris de la passion de la chasse. Les liens qui le rivaient naguère au foyer n'étaient plus si forts. Et cependant, la comtesse n'avait pas changé au contraire. Le bouton de rose s'épanouissait maintenant dans toute sa splendeur, mais dégageait toujours le même parfum.
C'était la forme impeccable d'une camée antique, et Gontram eût préféré qu'elle ne fût pas taillée dans le marbre de Paros, mais plutôt faite d'une argile vivante qu'eût modelée chaque nuance d'idées et de sentiments. Perpétuel rajeunissement, subtil contraste qui, en la laissant la même, l'eût se transfigurer sous l'influence de l'émotion.
Il avait épousé une déesse. Combien il eût mieux aimé une mortelle qui eût un cœur de femme avec toutes ses qualités, même ses défauts. Son admiration s'arrêtait donc, se figeait pour ainsi dire dans la glace. Son affection semblait ne point pénétrer l'âme de cette statue et il éprouvait une sensation vague dont il ne se rendait pas compte, mais à laquelle il obéissait en cherchant des distractions violentes à travers la montagne.
Il subissait cette transformation inconsciemment. Ainsi, le premier ennemi d'Odette fut son mari. Du moins, sa première souffrance vint de lui. Elle chercha tout d'abord à se faire illusion. Ce n'était qu'un nuage dans le ciel. Il passerait et de beaux jours luiraient encore pour elle.
Elle se trompait. La froideur alla s'accentuant et devint de l'indifférence. Avec cette intuition du cœur qui est le don de la femme, la pauvre Odette le comprit bientôt et sentit le désespoir monter dans son âme et tout submerger.
Seule, retirée en ses appartements, elle restait là, l'œil perdu dans le vide et toujours sec. Songeant au bonheur passé, maudissant le hasard qui l'avait mise sur le passage du comte de Gisberg, maudissant les fées et leurs dons. Maudissant même ses parents qui l'avaient privée de la seule consolation qui reste aux malheureux, car son cœur était plein et ne pouvait se décharger.
Elle étouffait faute d'une larme, cette douce consolatrice de l'âme qui vient toujours à notre secours, lorsque nous éprouvons les pénibles atteintes de la pitié ou de chagrin. Et ce fut de la sorte la plus cruelle des déceptions de voir qu'au milieu de la richesse, avec la beauté, on pouvait connaître le chagrin.
Si encore elle avait pu épancher sa peine dans le sein de sa mère, mais le métayer de Montabet était resté un simple manant auquel l'accès du château était interdit.
Les pauvres parents jouissaient de loin des hommages rendus à leur fille, qu'ils croyaient heureuse, tandis qu'elle se contentait d'être confondue dans la foule populaire.
La tristesse la minait. Les larmes bouillonnaient dans son cœur jusqu'à la faire éclater. Comme une machine qu'on a oublié de doter d'une soupape de sûreté, elle avait le sentiment de son impuissance. Elle appréhendait l'explosion de cette pauvre machine humaine qui servait d'enveloppe à son âme que le chagrin détraque quand il ne la tue pas.
Il tue plutôt l'homme, la femme et la vieille.
Odette en fit l'expérience. Malgré tous ses efforts, son sourire n'était plus spontané, ni son regard radieux. Le rempart déclinait rapidement, la tristesse, l'abattement trop visible sur son magnifique visage en dépréciait la beauté en raison directe de la peine qui grandissait intérieurement.
Ce changement dont il suivait les traces et les ravages exaspérés Gontram de Gisberg et le remords le prenaient d'avoir cédé un sentiment trop prompt, trop péril. Il n'était pas homme à supporter longtemps le masque du bonheur.
On l'aida encore à rompre avec une situation aussi pénible car la jalousie veillait.
La jalousie est la première ennemie du bonheur.
Il se produit toujours dans ces cas des caprices des grands que la jeune fille transplantait par une mésalliance qui l'élève en un monde qui n'est pas le sien, se heurte au dédain des grandes dames qui ne lui pardonnent pas de leur avoir été préférée. L'amour propre de la femme est doublé de l'orgueil de la caste.
C'est ce qui arriva pour Odette de Montabé. Les hommages rendus à la paysanne métamorphosée en comtesse semblaient un vol fait aux autres dames, femmes de la noblesse. De là une rivalité féroce qui ne désarmera pas.
Le changement opéré dans le cœur du maître, la tristesse, la prochaine déchéance de la nouvelle châtelaine n'échappèrent pas à cette jalousie des dames du château et des manoirs voisins. Et ces sentiments, on ne sut les exploiter à titre de vengeance ou plutôt de revanche. Avec une unanimité touchante, on rappelait la générosité du noble seigneur qui avait daigné abaisser son regard sur une pauvre fille, mettant la richesse du cœur au-dessus de tout l'or du monde, car ce n'était pas le visage seul qui le séduit, disait-on, et on le plaignait hautement de voir sa tendresse si mal récompensée.
Et la compassion féline s'étendait même à la pauvre Odette. Ce n'était pas sa faute, la pauvre, si elle manquait de tact, de délicatesse, elle le devait à son humble origine. Mais enfin, c'était un malheur que de sortir de si bas.
On rendait hommage à sa beauté, rare, savoureuse, éclatante, comme les fleurs de la montagne, qui charment tout de suite, mais qui perdent leur éclat si on les transplante hors de leur cadre sauvage.
À l'occasion d'une de ces fêtes qui se donnaient si fréquemment et si bruyamment au Moyen-Âge, entre les gentilshommes d'une même province, réunis en un château, la colère et la douleur du comte Gontram éclatèrent et s'étalèrent si publiquement que la pauvre Odette ne put se faire d'illusions. Elle était finie.
Ostensiblement, s'était manifesté le dédain du comte pour sa femme et son remords de l'avoir introduite inconsidérément au noble castel de ses pères. Toute la noblesse réunie n'avait pas donné des marques moins ostensibles de sa satisfaction.
Les rires étouffés, les compliments à rebours semblaient pleuvoir sur l'infortunée dame de Guisberg. Et parmi l'assistance féminine, chacune soulignait à sa manière l'épreuve de lassitude échappée au maître désabusé.
Rien ne se voilait pour Odette des menées de ses rivales. N'ayant pas grandi dans cette atmosphère des salons, elle n'avait pas l'art de composer son maintien, de faire contre fortune bon cœur. Aussi la tristesse trahissait-elle dans ses traits abattus et son regard atone. Elle eut cette mortification d'exciter la pitié.
Et c'est cette pitié qui fit éclater la colère de son époux. Il eût supporté les sourires de la galerie, non la pitié, surtout la pitié des femmes.
En devant cet affront, d'un regard, il foudroie la malheureuse, la cingle d'un mot cruel et se retire bruyamment, l'abandonnant à la commisération publique.
Quelques instants plus tard, le vide s'était fait dans les salons déserts, chacun ayant hâte de fuir ces lieux naguère si joyeux.
Pour la châtelaine, seule dans ses appartements, elle l'appelle la mort, car la vie lui est odieuse. Il est des affronts auxquels un noble cœur ne peut survivre. Sa poitrine se soulève, prête à éclater. Elle appelle de nouveau, et en vain, les larmes qui ne viennent pas.
Alors, désespérée, folle de douleur, elle a résolu de terminer son malheur en mettant fin à ses jours.
On est au milieu de la nuit. Le lendemain ne se lèvera pas sur sa honte. Non, la lumière du soleil n'éclaira point sa déchéance. Elle se lève et sort du château par la poterne. Où va-t-elle, la pauvre Odette ?
Elle n'en sait rien, elle court à travers la montagne et la voilà au bord de l'étang du Fischbödel. Sur les escarpements qui dominent le lac, comme des aiguilles de granit.
Elle découvre, à ses pieds, l'eau azurée où se réfléchissent les étoiles et le ciel bleu. L'eau qui l'appelle, qui l'attire, où elle noiera son existence et ses malheurs.
Voilà que du fond même de l'onde paludéenne surgit une lumière vaporeuse qui prend une forme. Une femme jeune, belle comme la nuit, triste comme le chagrin, se dresse devant elle et dit
« Odette, il vous reste au monde une amie. Ne devinez-vous pas en moi la fée turquoise qui assista à votre baptême ? Le don des larmes que vos parents ont refusé pour vous, vous eût épargné bien des humiliations et une partie des souffrances dont vous venez de faire la cruelle expérience. La beauté, la grandeur, la gloire, fatalement excitent la jalousie. Et la jalousie fait souffrir l'âme qu'elle atteint, et celle qu'elle poursuit. Même avec les dons de mes deux compagnes, vous ne pouviez trouver ici-bas un bonheur sans mélange s'il n'existe que là-haut. Non, personne n'échappe à la peine, c'est pour cela que les larmes sont nécessaires et bienfaisantes. Votre malheur vient moins encore de la malice des hommes que de votre insensibilité. Si vous avez pu pleurer, votre cœur était soulagé, votre âme rassérénée rayonnait sur votre figure, votre regard humide et touchant acquérait une puissance de plus. Votre mari n'eut pas à douter de votre tendresse et les nuages de votre ciel n'eussent jamais recelé la foudre qui vient de vous écraser. Mais il ne sera pas dit qu'une enfant née le dimanche, qu'une enfant dont la naissance était bénie par les fées sera malheureuse. J'ai retiré le don des larmes, non pas pour vous faire souffrir toute votre vie, mais pour que vous fassiez l'expérience de sa nécessité. Ce don des larmes, je vous l'octroie de nouveau aujourd'hui, puisque vous le désirez et que vous n'avez pas approuvé le refus prématuré et excusable de votre père et mère.
Et la fée disparut après avoir touché de sa baguette magique les deux yeux d'Odette.
Celle-ci reprit le chemin du château. De douces larmes coulaient lentement sur son visage. Le bonheur n'était pas revenu, mais elle était soulagée. Les larmes enlèvent à la souffrance tant d'amertume qu'elle bénissait la bonne fée de son don.
Les étoiles commençaient à pâlir dans le jour crépusculaire, comme elle regagnait le château, sans que sa fuite ait été remarquée.
Une fois dans ses appartements, qu'elle ne fut pas la surprise d'Odette de voir à la clarté de l'aurore qui entrait par l'ogive du vitrail un ruissellement de perles sur ses vêtements.
Serait-ce un jeu de la lumière dans ses larmes comme dans les gouttes de rosée suspendues au brin d'herbe du matin ? Mais non, ses larmes n'ont pas seulement l'éclat des rubis, des émeraudes, des turquoises, elles en ont la consistance.
Elles se changent en véritables perles. Et durant 3 jours, les yeux d'Odette de Montabet distillèrent de fines pierres précieuses. La source en paraissait intarissable.
Au soir du 3e jour, elle reçut la visite de la fée des larmes. C'était bien ce noble et pâle visage de l'apparition du Fishbuddle, mais un sourire mélancolique avait remplacé sa gravité troublante.
La fée accueillit volontiers les démonstrations de la gratitude de la jeune femme, heureuse de revivre et de pleurer.
« C'est bon de pleurer !» s'écriait Odette. « Oh, que les larmes sont douces !»
Et précieuse, reprenait la fée, avec ce don des larmes, vous allez retrouver les dons des 2 autres fées. Prenez ces perles et formez-en un collier à 3 rangs. Demain matin, portez ce collier à votre cou. Il fera reparaître votre beauté et aller saluer votre époux que vous n'avez pas revu depuis 3 jours.
La fée disparut de nouveau. Et le lendemain matin, le collier à 3 rangs de perles était fait. Odette s'emparait et quittait ses appartements. Elle rencontre son époux, qui depuis 3 jours était allé chercher dans la montagne les distractions de la chasse. Au moment où il reparaissait dans la cour, Odette s'avance et lui dit
« Monseigneur, point n'était fait pour mener liesse et tournois. Vous suppliez m'octroyer licence de retourner près de mes bons parents. N'en serai moins votre humble servante et toujours prierai pour l'heure de votre seigneurie, notre doux sauveur et sa benoîte mère. »
Le comte, en voyant sa femme, fut de nouveau sous le charme. Plus même qu'il ne l'avait été lors de leur première rencontre. Il retrouvait sa beauté relevée, comme par un rayon, un éclat mystérieux qui la surnaturalisait.
« Oh » pensa-t-il, « pourquoi l'ai-je regardé par les yeux des autres ? Pourquoi avoir prêté l'oreille aux insinuations malveillantes de la jalousie ?»«
Et qui donc disait ? » s'écria-t-il. « Odette m'a mis que vous étiez insensible et sans grâce. Non, ne me quittez pas. Vous êtes, madame, et le serez toujours pour le bonheur et la joie de ma maison. » En son honneur, il donna une nouvelle fête dont la comtesse de Giersberg fut vraiment la reine. Elle ne régnait plus seulement par la beauté, mais par le cœur. Aussi son règne ne devait plus finir, car sa bonté désarma la jalousie.
La sensibilité qui lui était rendue avec les larmes était la preuve de cette bonté de cœur, tant il est vrai de dire avec le poète:
quand l'amitié ou l'amour éveille notre sympathie, lorsque la sincérité devrait éclater dans le regard, les lèvres peuvent tromper en creusant la fossette d'un sourire. Mais la vraie preuve de l'émotion est une larme.
Trop souvent, un sourire n'est qu'une ruse de l'hypocrisie. pour masquer la haine, je préfère un doux soupir. Lorsque les yeux, expression de larmes, sont un moment obscurcis par une larme. »